La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Fréquence T pour un grain de causette consacré au contrat de territoire lecture des dispositifs de lecture publique innovants au cœur des territoires. Initiés dès 2010, les contrats territoire lecture, CTL, permettent de tisser des partenariats entre les collectivités territoriales et l'État autour de projets de lecture publique. La souplesse de ce cadre contractuel permet de s'adapter à des contextes et à des territoires divers et se déploie aujourd'hui dans les bibliothèques publiques autour de projets très larges, héritiers des dispositifs Ville Lecture, souvent autour de la petite enfance et des publics éloignés de la culture. Le CTL a vocation à répondre aux besoins identifiés par la collectivité lors d'une phase d'état des lieux, on y reviendra, tout en s'inscrivant dans les grandes orientations du ministère de la Culture en matière de politique de lecture. Le dispositif se concentre notamment sur la mise en réseau des bibliothèques de lecture publique, l'accompagnement des territoires et les publics les plus fragiles, la transformation des bibliothèques vers des maisons de services publics culturels. Une question qu'on évoquera aussi. Depuis 2018, à la faveur d'une prise de compétence et d'un transfert complet de la lecture publique, le réseau des 8 médiathèques de Concarneau-Cornouailles Agglomération dans le Finistère est en pleine croissance. Gratuité pour tous, navette documentaire, mise en réseau informatique et plan de construction et de réhabilitation des bâtiments. Trois atouts maîtres pour ce territoire de 50 000 habitants avec 24% d'inscrits, donc un fort succès auprès du public. Le contrat territoire lecture est, avec l'accessibilité et la politique documentaire, l'un des nouveaux axes de développement de la lecture publique pour ce territoire. Pour en parler, on reçoit Camille Lelanne, directrice adjointe des médiathèques du réseau des médiathèques de Concarneau-Cornouailles Agglomération. Camille coordonne les principaux projets et actions de l'établissement, communication, action culturelle du service, numérique, construction ou rénovation d'équipements, organisation logistique, la formation du personnel, mais aussi bien sûr notre sujet du jour, le contrat territoire lecture. Bibliothécaire depuis une quinzaine d'années, chargée de cours au CNFPT et auteur de 3 ouvrages chez Vuibert, elle est très attachée à la bibliothèque en tant que levier culturel et social. Et c'est très important pour s'occuper d'un contrat territoire lecture dont on va voir qu'il est très très fortement axé sur une dimension socioculturelle. Bonjour Camille.
Bonjour Thibault.
Alors, Camille, les contrats territoire lecture se caractérisent par une méthodologie rigoureuse et notamment par une phase de diagnostic. Hein, on l'a vu, c'est vraiment quelque chose d'important de faire cette photographie un petit peu du territoire, comme on le fait finalement pour les grands projets en bibliothèque, notamment les politiques documentaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce process de diagnostic qu'a mis en œuvre votre collectivité? Qu'est-ce qu'il a mis à jour finalement chez vous dans votre territoire?
Alors, oui, c'est vrai que la phase de diagnostic, c'est quelque chose de fondamental au démarrage d'un projet. Donc, dans le cadre du CTL, pour notre part, c'est le premier axe, parce que ça fait 3 ans que nous sommes en réseau. Donc, c'était une véritable opportunité pour nous d'évaluer l'impact de cette mise en réseau. Donc, en fait, la DRAC Bretagne nous a fortement accompagnés sur cette évaluation. Donc, nous avons lancé une consultation et donc un cabinet a été retenu pour nous accompagner sur cette mission. Parce que bon, on est un réseau avec quand même une vingtaine d'agents, mais seulement 2 catégories A. Donc, on a effectivement un besoin de soutien externe pour l'ingénierie culturelle. Donc, nous avons aussi beaucoup de dossiers techniques à mener actuellement. Donc la méthodologie, elle est assez classique, hein. On s'est basé sur du quantitatif, donc issu de notre rapport auprès du ministère de la Culture, mais aussi de données nationales, hein, l'INSEE, Compass, etc. Tout ça, bien entendu, a été complété par des entretiens auprès de partenaires ou de services internes, donc des partenaires qu'on a sélectionnés au préalable en recherchant au final des entrées communes, hein, une intersectorialité, par exemple sur la culture et l'éducation, la culture et le social. Donc ce diagnostic qui est fondamental nous a permis d'identifier bien sûr nos points forts, mais aussi nos points faibles. Donc bien sûr, on soupçonnait un petit peu nos points faibles, mais ça a au moins eu le mérite de les présenter de manière objective. Donc le comité de pilotage, qui est constitué d'élus communautaires, mais aussi d'élus à la culture municipaux, aura l'occasion du coup de découvrir ce diagnostic très prochainement. Et comme ce sont principalement de nouveaux élus, ils vont pouvoir aussi constater le rayonnement de notre réseau sur le territoire.
D'accord. Alors, votre bibliothèque, vous le rappeliez, hein, c'est un réseau intercommunal, oui, hein, de lecture publique. Est-ce que le CTL a permis un maillage plus efficace du territoire qui est le vôtre? Est-ce que cette dimension de maillage du territoire est inclue dans le CTL?
Alors, effectivement, on a évalué ça parce que nous, sur notre territoire, donc 9 villes constituent l'intercommunalité, mais seulement 8 médiathèques sont communautaires. Donc, on est en connexion avec la 9e bibliothèque qui est municipale grâce à des équipements informatiques. Mais le CTL ne modifie pas ce périmètre d'intervention-là qui est lié à des choix politiques. Par contre, on a pu constater du coup le rayonnement de notre réseau, donc par les statistiques sur la fréquentation, les échanges de collections entre bibliothèques. Donc du coup, on évalue beaucoup mieux et plus finement le rayonnement au-delà des frontières strictes de l'agglomération, mais aussi donc les connexions entre bibliothèques sur des secteurs comme le littoral ou les zones rurales. Donc on intervient à la fois sur des territoires institués, donc la commune historiquement, et CCA, donc l'agglomération, mais aussi sur des territoires de vie qui sont liés par exemple à des réseaux de bus ou un axe de circulation qui pour notre part coupe le territoire en deux. Donc c'est vrai qu'au niveau du maillage, on a une meilleure cartographie grâce au CTL et grâce au diagnostic. Et là où ça peut devenir plus efficace, c'est que le CTL, par ce diagnostic-là, permet aussi de renforcer le sentiment d'appartenance de l'équipe à un réseau, d'augmenter aussi la visibilité des services des médiathèques, et ce, à n'importe quel endroit. Parce qu'effectivement, on a, dans le diagnostic, on mentionne le fait que la gratuité, la carte unique, la mise en place d'une navette ont eu un impact formidable sur nos inscriptions, sur les emprunts, et donc ça a véritablement boosté l'appropriation par les habitants des médiathèques. Donc du coup, sur le maillage, effectivement, avec le CTL, on envisage de développer des axes et de décliner des actions à la carte, parce que c'est effectivement une des souplesses du CTL. On a identifié certaines choses qui pourraient renforcer et améliorer le maillage de la lecture publique sur notre territoire. Donc par exemple, on a un bibliobus vieillissant, donc être soutenu financièrement par la DRAC, ça peut laisser espérer un renforcement de la présence de la lecture publique sur des quartiers périphériques ou alors des interventions de proximité dans un quartier politique de la ville ou encore sur le littoral l'été quand les médiathèques sont difficiles d'accès du fait de la fréquentation touristique. Donc en fait, tout est à imaginer. On peut aussi imaginer par exemple des bibliothèques autonomes grâce à la RFID ou encore des points lecture développés dans certains lieux partenaires. Donc là, je pense aux crèches par exemple. Donc voilà, le CTL, ça permet vraiment d'asseoir la lecture publique dans un territoire et de renforcer son périmètre d'intervention.
En tout cas, à vous entendre, on mesure quand même la pertinence du propos de Dominique Lahari lorsqu'il dit que vraiment maintenant le bon territoire pour penser la lecture publique, ce sont bien les bassins de vie hein, qui parfois d'ailleurs se défient des frontières communales ou intercommunales.
Exactement.
Camille, pourriez-vous nous en dire plus sur la typologie des publics ciblés par votre CTL?
Alors, le CTL, ça vise quand même majoritairement à renforcer les pratiques de lecture, mais aussi à s'inscrire dans l'enseignement artistique et culturel. Donc, en fait, nous, on a choisi de cibler des populations qui pourraient être éloignées du livre ou qui sont fragilisées. Donc, on a visé la petite enfance principalement. Et donc, des personnes fragilisées, donc soit par l'âge, soit par la dépendance, soit pour des motifs socio-économiques. Donc, on les a identifiées et c'est vrai que voilà, ça, on est sur un territoire attractif, hein, mais on a quand même des problématiques de vieillissement de la population sur le littoral, un recul dans les zones rurales des familles, qui voilà, soit par rapport au coût du foncier ou par rapport à la proximité des axes routiers s'installe là. Donc pour participer au projet de territoire, il faut que voilà, les médiathèques interviennent sur ces politiques-là et donc du coup favorisent l'installation durable des familles sur le territoire en ayant par exemple des équipements culturels de proximité attractifs. Donc en fait, pour nous, l'objectif n'est pas nécessairement de rajouter des actions auprès de ces populations-là, mais surtout de dynamiser et consolider des partenariats avec des acteurs qui interviennent auprès de la petite enfance ou des personnes âgées ou autres. Hein, parce que c'est des partenariats quand même, faut être honnête, quand on passe en réseau, ils peuvent être fragilisés lors d'une mise en réseau puisqu'il peut y avoir des pertes de repères. Donc il faut effectivement restaurer un dialogue, partager une vision sur les missions des médiathèques pour mieux se connaître, quoi. Parce que pour moi, voilà, le partenariat, c'est la clé d'accès à des publics non familiers de nos établissements. Donc en fait, indirectement, on est dans une stratégie de conquête des publics avec le CTL, même si c'était pas notre objectif initial, quoi. On était sur quelque chose d'assez de stabilisation, en fait. Donc voilà, on peut envisager des choses autour des publics, mais indirectement aussi, on va intervenir sur les collections, on va mettre en place des malles, renforcer des fonds, favoriser les formations, etc. Donc voilà, sur les publics ciblés, on est sur ces deux publics-là.
D'accord. Alors, en tout cas, si on parle des jeunes publics, il y a un label auquel vous tenez particulièrement, je crois, qui a été lancé en 2009, qui s'appelle le label Première Page, qui a été initié par le ministère de la Culture pour sensibiliser les familles, notamment les plus fragiles et les plus éloignées du livre, à l'importance de la lecture dès le plus jeune âge. Pourriez-vous nous parler de cette opération qui apparemment est chez vous étroitement liée au CTL également?
Oui, alors c'est vrai que dans le CTL, on travaille sur la petite enfance et en parallèle, on a aussi candidaté donc sur le label Première Page. Donc on peut se dire, mais pourquoi au final, à deux reprises, vous travaillez sur les mêmes publics? Il s'avère que le label Première Page, en fait, sur le Finistère, il n'y a aucune collectivité donc qui répond pour le moment. Donc du coup, on a choisi de développer Première Page pour avoir une action vraiment identifiée, lisible et pérenne. Donc on va mettre à l'honneur bien entendu la littérature jeunesse, mais aussi les fonds parentalité, etc. Et pour que le label fonctionne, on a choisi de s'appuyer sur un groupe de travail mixte, donc des acteurs économiques comme les libraires, des partenaires de la petite enfance comme les crèches, des futurs parents, etc. dans l'objectif d'offrir un livre pour la naissance. Donc par exemple en 2020 sur notre territoire, on a eu 365 naissances. C'est pas beaucoup peut-être, mais c'est ce genre d'action, voilà, rentre en lien avec notre projet de territoire sur le lien avec les familles. Donc du coup, en plus de ce don de livre-là, on va développer des actions périphériques, hein, donc avec une exposition, l'accueil de l'auteur auprès du grand public, dans la mesure bien entendu des possibilités sanitaires. Donc voilà, on n'est pas dans quelque chose d'innovant, puisque certains territoires labellisés par Première Page proposent cette action depuis très longtemps, hein, je pense au département du Val-de-Marne par exemple. Mais voilà, nous, de notre côté, en tout cas, on appuiera ça par une campagne de communication renforcée, donc des arrière-bus, des flyers, etc., donc quelque chose de très fort et de très soutenu pour interpeller la population aussi sur la littérature jeunesse, sur la possibilité qu'a un enfant dès sa naissance de venir dans une médiathèque et sur l'impact du livre sur l'enfant, sa famille ou une fratrie en tant que voilà que levier de progrès social. Voilà.
Alors vous l'évoquiez tout à l'heure Camille, hein, mais le partenariat est bien le socle à la fois de tout projet de lecture publique abouti, mais également du CTL qui favorise un décloisonnement des bibliothèques finalement assez cohérent avec leur évolution vers des maisons de services publics culturels de proximité qui étaient notamment promues par Éric Orsenna et Noël Corbin dans leur rapport Voyage au pays des bibliothèques, qui d'ailleurs se rapprochait assez de l'idéal de Malraux, hein, avec ses centres culturels dont il rêvait que le territoire soit finalement maillé. Pensez-vous de votre côté qu'il puisse s'agir là d'une forme d'avenir pour les bibliothèques publiques territoriales?
Alors, c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous, hein, sur le vœu d'Éric Orsenna. Il se rapproche très fortement de l'héritage de Malraux et des maisons de la culture. La lecture publique, c'est une politique culturelle. Donc du coup, on est aussi dans la proximité, la gratuité, le libre accès pour le champ culturel. Moi, personnellement, je pense que la démocratisation culturelle, ça n'est pas nouveau dans nos établissements en France, parce qu'on est un service public, on est obligé de s'adapter aux mutations sociétales. Donc là, actuellement, on est sur le participatif, des espaces de coworking, voilà, le temps libre et voilà, la concurrence de différents acteurs pour l'occuper. Et ça fait des décennies, en fait, qu'on est dans la continuité de certaines missions de l'école liées à l'instruction des populations. Donc en fait, tout ça, c'est complémentaire, ça constitue notre quotidien. Et malgré le fait que les médiathèques soient la première porte d'entrée vers la culture, il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir pour développer la mixité sociale dans nos établissements. Hein. Les statistiques nous montrent toujours que ce sont certaines CSP qui fréquentent majoritairement nos bibliothèques. Donc justement, moi je pense que le partenariat avec des acteurs du champ social, c'est une force. Mais pour moi, l'avenir, il n'est pas du côté des professionnels, il est du côté des politiques. Donc, quels moyens on met dans la médiathèque pour qu'elle atteigne un objectif de progrès social? Voilà, parce que la médiathèque, c'est un outil de politique publique locale. C'est un lieu d'accès au savoir qui doit permettre de favoriser l'égalité des chances, y compris dès la petite enfance. Donc, c'est pour ça que nous, effectivement, on a choisi ce public-là. Mais la bibliothèque aussi, c'est voilà, c'est le moyen d'accéder à un emploi, de réussir ses études, d'apprendre à argumenter pour avoir des discussions constructives avec les autres. Mais c'est aussi pour certains le moment où on peut sortir du rythme effréné de la vie quotidienne, sortir de sa routine, avoir des expériences intellectuelles surprenantes avec certaines animations. Voilà, on constate aussi des questions sur la démocratie, sur les fake news. Donc la formation de l'esprit critique, elle est aussi au cœur des missions des bibliothèques actuellement. Donc bref, en fait, on a un service public qui rejoint des problématiques beaucoup plus générales. Et c'est vrai que voilà, pour l'avenir des bibliothèques publiques territoriales, en tout cas sur notre territoire, on a eu un fort accompagnement financier du département du Finistère et de la DRAC Bretagne. Donc pour preuve que nos lieux qui sont bien fréquentés sont quand même encore un enjeu politique et public. Voilà, moi je pense que clairement, voilà, l'avenir c'est au niveau des politiques, parce que nous, de notre côté, on est dans des diversifications d'actions, on réfléchit à l'aménagement de nos lieux pour accueillir plus de public. Enfin, on est dans l'action, on est dans une technicité, mais on ne peut pas les mettre en œuvre si on n'est pas soutenu.
Oui, moi je souscris pleinement à ce que vous dites. Hein. Je pense que c'est assez important de rappeler à quel point les bibliothèques publiques sont un petit peu, comme je le dis, souvent consubstantielles finalement du contrat social républicain finalement. Hein. On est vraiment des outils de la République. Hein. Je pense qu'on parle souvent de l'école pour ça, mais on oublie un peu les bibliothèques. Effectivement, vous avez raison, ça suppose des moyens. Alors, c'est une belle transition si on parle moyens. Est-ce que je peux vous demander si le CTL chez vous est mis en œuvre par un personnel dédié ou est-ce qu'il correspond plutôt à un effort transversal de l'intégralité de votre équipe ?
En fait, on procède en deux phases. C'est-à-dire que sur la phase projet, donc deux agents ont été spécifiquement dédiés à ça. Donc moi, pour la partie conduite de projet, échange avec la DRAC ou organisation des comités de pilotage. Et une collègue dédiée à cela plutôt pour la partie comité technique et aspect opérationnel auprès des équipes. Mais ça ne peut pas fonctionner qu'avec deux personnes. Hein. Il faut que ça se fasse avec une équipe qui est impliquée et mobilisée. Donc pour ça, il faut doser, planifier, penser aussi aux projets parallèles du service, au niveau de formation des agents, aux besoins de la population. Donc tout ça, c'est un savant exercice chimique, presque même, je dirais. Donc on a procédé par des rencontres individuelles avec les responsables des 8 médiathèques communautaires. On a fait un temps de présentation aux agents du diagnostic en les associant à la relecture, en répondant aux questions, en retravaillant aussi certains aspects, parce que les axes et les actions ne sont pas encore validés par les élus. Donc du coup, on peut aussi faire une boîte à idées avec les agents. Donc tout ça, c'est aussi pour participer à l'adoption par l'équipe de la philosophie du CTL sur notre réseau. Donc ça, c'est vrai que c'est une force de travailler en réseau parce que du coup, on a un intérêt commun à mettre des réflexions et des expériences dans le vivier du CTL. C'est un projet qui va être le leur à la fin. Ce ne sera pas mon projet à moi, ce ne sera pas forcément le projet des élus, ça va être le projet des bibliothécaires qui seront en contact avec les partenaires, qui vont mettre en œuvre des actions, qui vont participer à des formations et qui seront sur la proximité. Donc c'est très important de les associer. Donc pour répondre à votre question, on est à la fois sur des personnels dédiés au début, à l'évaluation, et puis du coup sur du transversal pour l'opérationnel. Quoi.
D'accord. Voilà. Alors, les dispositifs V-Lecture dont on a dit qu'ils ont inspiré les contrats territoire lecture, et que moi j'ai rencontré bien souvent dans ma carrière professionnelle et qui ont d'ailleurs bien contribué à un petit peu bâtir l'ossature un peu idéologique que je me fais de ce métier. Parmi les attendus donc des dispositifs V-Lecture, il y avait la volonté forte d'assurer une formation commune pour tous les acteurs impliqués dans la lecture, inclus bien sûr des professionnels de l'animation, de la petite enfance, les enseignants, etc. Est-ce que cette préoccupation est toujours présente dans votre projet de CTL à Concarneau ?
Oui, moi pour ma part, mon souhait en fait, ce serait qu'on, pour chaque axe identifié et validé par les élus, on ait une formation et une action. Donc comme ça, on participe à l'augmentation du capital RH du réseau, mais aussi à l'interconnaissance entre les partenaires. Parce que partir en formation avec d'autres services ou des partenaires, c'est avoir un temps pour échanger, discuter, trouver un vocabulaire universel, parce que voilà, on a toujours des déformations professionnelles en bibliothèque et il est important de bien se faire comprendre. Décououvrir des difficultés communes sur un territoire, c'est aussi essentiel. Et aussi pour les bibliothécaires, je pense qu'il y a la formation avec d'autres partenaires, ça permet aussi de se rendre compte qu'on est légitime sur certains champs de compétences et qu'on a tout intérêt à partager nos compétences et nos idées pour animer le territoire et développer la lecture auprès du public. Et puis, le temps de formation, moi j'insiste, hein, c'est un temps pour les agents pour s'extraire du quotidien. C'est un moyen pour leur permettre, pas forcément d'en faire plus, mais au moins de faire mieux. Donc, soit en gagnant du temps, soit en partageant des ressources, soit en progressant. Et là, c'est tout bénéfice, en fait, pour nous, grâce au CTL, quoi.
Oui, oui, puis c'est sans doute aussi un enjeu sociétal, hein, que de sortir la question de lecture, de la lecture de la seule sphère de la pédagogie et sans doute de la seule sphère des bibliothèques aussi, pour en faire vraiment un outil, je pense, hein, qui soit saisi par tous. C'est finalement le prolongement ultime d'une politique de lecture publique qui serait réussie, sans doute, hein, quand tous les acteurs satellites, à l'enfance notamment, mais aussi dans les quartiers, se saisissent de l'outil lecture pour l'inclure à leur pratique professionnelle.
Oui.
C'est sans doute ça, une politique de lecture publique vraiment aboutie, hein.
Ouais, c'est intéressant. Il y a des dispositifs proposés, par exemple, par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui permettent de former des médiateurs dans des quartiers, d'accompagner des familles pour qu'elles apprennent à lire à voix haute, les amener, grâce à des chèques lire, à aller acheter en librairie leur propre bibliothèque. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes, hein, et qui peuvent, par exemple, être soutenues par le CTL.
Alors, pour conclure, Camille, ce très intéressant entretien, votre collectivité envisage-t-elle une suite à ce contrat territoire lecture, puisqu'on sait que le conventionnement dure 3 ans, et puis après, finalement, la collectivité n'est pas obligée de poursuivre. Est-ce que à Concarneau-Cornouailles, vous avez déjà l'envie, le souhait de poursuivre cet effort?
Alors, la collectivité ne s'y est pas engagée parce que c'est encore un petit peu trop tôt, mais moi, à titre personnel, j'y pense déjà. Parce que voilà, au terme des 3 ans de conventionnement, on peut tout à fait souscrire pour un nouveau CTL. Tout comme pour Première Page dont on parlait tout à l'heure, on peut demander une nouvelle labellisation qui, pour la deuxième fois, serait d'une durée de 3 ans. Donc tout ça, c'est très, très intéressant à planifier. Sur le deuxième CTL, pour moi, ce serait l'occasion de faire progresser le réseau en nous dirigeant vers une nouvelle cible, beaucoup plus difficile à atteindre et sur laquelle on est très faible sur notre réseau, c'est les adolescents. Mais je crois que ça, c'est la quête du Graal des bibliothécaires, parce qu'au final, c'est un public très, très difficile à capter, hein. Mais bon, voilà. Avant, en tout cas, de prendre cette décision de reconduire ou non un CTL, on est obligé de passer par une étape qui est obligatoire et primordiale, celle de l'évaluation. Parce que voilà, on peut pas continuer à alimenter des projets de manière concertée sans avoir décidé d'arrêter ou non certaines actions, sans avoir dit ça a très bien marché, il y a eu un très bon retour, ça a apporté ses fruits, etc. Grâce à un retour sur des indicateurs qui auraient été préconstruits. C'est essentiel. L'évaluation, c'est le fondamental.
Oui, et ça se retrouvait déjà dans les dispositifs ville lecture. Donc on voit qu'il y a vraiment une vraie concordance entre les dispositifs ville lecture et les très actuels contrats territoire lecture. Camille Lelanne, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions autour de ce dispositif innovant, hein, qui est le contrat territoire lecture et qui a très clairement le vent en poupe, hein, on peut dire ça, pour un petit peu structurer dans les territoires les actions de lecture publique. Merci à vous.
Merci Thibault.
Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain Grain de Causette sur Fréquence T, la web radio des territoriaux. Cet entretien a été réalisé avec la e-communauté Culture et Territoire du CNFPT. À très bientôt.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.